Merci beaucoup, Pasteur Tony. J'ai beaucoup apprécié ta portion. Bonjour à toutes et à tous. Content de vous voir ou de vous revoir pour certains. On a passé, c'est vrai, 48 heures intenses. J'ai beaucoup parlé. Vous avez beaucoup utilisé vos oreilles. Et en tout cas, plein de projets pour cette église. On a vraiment débattu de pas mal de choses. Il y a pas mal de possibilités là. Pasteur Tony vous en parlera plus tard, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon moment. Merci pour votre accueil. Pour certains, vous le savez déjà, mais pour d'autres, à Paris, nous sommes dans une période un peu particulière puisque nous avons à la fois des nouveaux locaux le dimanche. Nous avons deux adresses, en fait. Mais le dimanche, non seulement nous avons changé d'adresse, mais nous avons changé l'horaire du culte. Et donc, en ce moment, l'église de Paris dort peut-être, fait la grâce matinée, puisque les cultes sont à 16 heures maintenant. Donc, c'est un grand changement pour notre assemblée. Et tout se passe bien. On fait ça depuis le début janvier. Et on peut dire que Dieu bénit cette décision. Et voilà, donc c'est une autre étape. Et on va voir ce que Dieu va faire avec ce nouvel horaire. Donc, ce matin, nous allons lire d'abord un passage des Écritures, c'est dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, dernier chapitre de l'évangile de Marc. Jésus a été crucifié, et là il est dit au verset 1, et on va lire jusqu'au verset 8, Marc 16, versets 1 à 8. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vinrent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc là, nous avons une scène que l'on connaît tous. La résurrection, on en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est le fondement du christianisme. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Et donc, c'est une scène que l'on connaît tous, mais en même temps, il est bien de temps en temps de se rappeler certaines choses et aussi d'essayer de la vivre pour s'identifier à ce qui s'est passé et d'essayer d'imaginer ce que ces femmes ont pu vivre. Ces femmes ont suivi Jésus depuis déjà quelque temps, pour certaines plusieurs mois, d'autres plusieurs années. Donc ce sont des disciples de Jésus, et comme tu l'as dit tout à l'heure concernant l'apôtre Pierre, elles ont suivi Jésus parce que cet homme était la parole de vie. C'était la parole qui s'était faite chair, ce qui fait qu'il n'y avait rien d'autre à vivre que de suivre cet homme. Vous savez, quand on est très jeune, mais ça continue après, on aime entendre des histoires, on aime entendre des choses, on écoute. Mais là, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, c'est le Messie qui est venu sur la terre. Et ce qui fait qu'il y avait être disciple de Jésus, c'était, et c'est encore aujourd'hui, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une affabulation, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps. C'est la vérité venue d'en haut qui s'installe dans notre cœur, qui s'installe dans notre quotidien, qui s'installe dans notre propre vie. Ça devient une réalité. La vie de résurrection qui se propage dans un corps de mort que nous sommes. Et ces femmes avaient discerné ça. Elles avaient discerné qu'il était la parole éternelle. Et le mot éternel a un sens. Éternel, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. C'est pour toujours. Et là, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre ? elles vivent la mort. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié et Jésus est mort. Et ce qui fait que cette parole s'arrête. Elles ne parlent plus. Et donc elles sont désespérées. On sait par ailleurs que Jésus avait annoncé la résurrection. L'ange le dit d'ailleurs. Il précède en Galilée, il vous attend comme il vous l'avait dit. Mais même si on a besoin et on cherche à entendre la parole de Dieu, parfois on ne la croit pas. Et là, la mort a pris plus de place que la promesse. La mort a pris plus de place que la vie. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Jésus a goûté la mort. Celui qui est la vie éternelle s'est identifié à nous et a vécu la mort. Mais ces femmes aujourd'hui, enfin, dans ce passage, on peut imaginer qu'elles devaient être désespérées. Et ça peut nous arriver aussi, où nous sommes croyants, nous recherchons la parole de vie, nous espérons, nous suivons Jésus, nous marchons avec lui, nous prenons des décisions pour lui, parfois ça nous coûte. Néanmoins, il y a des moments où on est dans un cimetière. Et vous savez, dans un cimetière, il n'y a pas d'espérance. C'est terminé. Je donne cet exemple à Paris, là où l'église se trouve, et à l'époque on avait un local qui était encore plus près de ce lieu, il y a ce qu'on appelle le cimetière Montmartre. C'est le deuxième cimetière le plus connu de Paris, après celui du Père Lachaise. Et donc dans le cimetière de Montmartre, il y a des gens très connus. Et comme l'église n'était pas loin, de temps en temps, j'allais dans ce cimetière méditer, c'est un endroit calme, il n'y a pas de bruit, et il y a des bancs, on peut s'asseoir, donc j'allais dans ce cimetière. Et je passais devant des tombes, déjà vous entrez, il y a une grande tombe, c'est celle de Berlioz, le compositeur français du 19e siècle. Cet homme qui a laissé des opéras, des symphonies et toutes sortes de chefs-d'œuvre, soi-disant. Mais il est dans une tombe depuis maintenant, 100, 150 ans. Et il n'y a plus d'espoir, il ne composera plus. Son génie n'existe plus. Sa vie n'est plus. Et puis il y a d'autres personnes, il y a Dalida, que vous connaissez sans doute, Michel Berger, le compositeur, François Truffaut, un metteur en scène de cinéma, après des acteurs plus vieux, il y a Henri-Georges Clouzot aussi, un metteur en scène des années 50. Voilà des gens qui ont eu leur heure de gloire. Et puis là, vous promenez dans un cimetière, eux ne sont pas là, on sait, ils sont ou dans l'attente du jugement ou dans la présence de Dieu. Mais en tout cas, leurs os sont là. Il n'y a plus d'espoir. Et ces femmes, en cet instant, ont ce rapport-là avec Jésus. C'est que Jésus n'est plus. Et encore une fois, ça peut nous arriver où on a l'impression que Jésus n'est plus dans notre vie. C'est comme un cimetière. C'est le désespoir. Elle pouvait se dire, mais on a tellement cru pendant 2-3 ans. On a tellement espéré. En plus, on l'a vu faire des miracles. On l'a vu ressusciter Lazare, on l'a vu, je veux dire, c'était pas des bobards, c'était vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si tout le passé s'écroule. Et parfois, on a l'impression que notre vie chrétienne s'écroule, parce que nous goûtons la mort, on n'a plus d'espoir. Et en même temps, et c'est un des nombreux paradoxes de la foi, de la vie chrétienne, et j'utilise le mot « foi » à juste titre, je pense, c'est qu'elles ont là une certaine foi comparée à celle des apôtres et des disciples. D'un côté, elles n'ont pas la foi parce qu'elles croient que la mort a vaincu. Et la preuve, c'est qu'elles veulent embaumer le corps de Jésus. On n'embaume pas quelqu'un qui vit. On n'embaume pas quelqu'un qui va ressusciter. Donc, elles étaient désespérées. Et en même temps, si on compare avec l'attitude des apôtres et des disciples, elles n'ont pas d'autre choix que de venir dans ce cimetière. Elles ne sont pas restées chez elles. Elles ne se sont pas dit « ça ne sert à rien ». Il y avait comme une volonté de suivre Jésus encore jusque dans le tombeau, jusque dans la mort. Et parfois, c'est là que Dieu veut nous amener. C'est qu'on ne peut pas goûter à la vie de résurrection, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir des autels dans nos vies, des bornes où Dieu nous a parlé, si on ne passe pas parfois par la mort, par le désespoir, par un manque de foi en nous-mêmes. Il faut parfois que l'on n'ait plus la foi en nous ou en nos proches pour que notre foi se tourne vers Dieu. Et donc, ces femmes vont quand même dans le cimetière, et encore, je le répète, non seulement elles vont au cimetière, mais elles savent très bien que ce qu'elles veulent faire, c'est pratiquement impossible. Qui va nous rouler la pierre? On le sait à l'époque que le tombeau, c'était sans doute sur un pan de grotte ou de montagne, c'était un trou, d'accord, dans la roche. Et donc, on ne murait pas l'orifice, on roulait une pierre simplement. Et dans l'évangile de Matthieu, par exemple, on a plus de détails. C'est comme les Juifs avaient tellement peur, et même les Romains, que ce que Jésus avait annoncé s'accomplisse, c'est-à-dire la résurrection, ils voulaient presque d'une certaine manière empêcher soit la résurrection, soit que l'on falsifie l'histoire en essayant de voler le corps de Jésus. Donc, ils ont mis une pierre énorme, mais en plus, ils ont mis des gardes. Et on sait qu'à l'époque, selon les historiens, que quand des gardes devaient protéger un lieu ou surveiller un lieu 24 heures sur 24, il y avait en général 6 soldats, 2 qui regardaient d'un côté, 2 autres en face qui regardaient de l'autre côté, et 2 qui dormaient au milieu entre les 4. Et ils se relayaient comme ça, pour que le lieu soit intégralement gardé 24 heures sur 24. Et on pense que c'est comme ça que les Romains ont gardé le tombeau. Donc la pierre est énorme, lourde, il y a des gardes, mais elles veulent quand même embaumer Jésus. Elles veulent, d'une certaine manière, prolonger la vie, même si c'est illusoire. Et en ça, elles se trompaient, bien sûr, mais en même temps, elles venaient. Et parfois, nous, c'est ce qu'on doit vivre dans notre vie. C'est intéressant parce que, au verset 6, l'ange, qui connaît ce qui se passe dans leur cœur, il précise, il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth. Vous savez, si des fois dans notre vie, nous avons des situations où il n'y a plus rien qui vit, on vit, mais il n'y a plus rien qui vit, continuons de chercher Jésus de Nazareth. Continuons de le chercher. Parce que Dieu peut répondre au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, prier. C'est extraordinaire. C'est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui à partir d'une parole a fait que le monde soit. Qui, à partir d'une parole, a voulu que je sois, que j'existe. Je ne suis pas né selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ça part de la nouvelle naissance. Ça, c'est la réalité, c'est la puissance de Dieu. Et la mort ne peut pas vaincre la vie. La mort peut se vivre, c'est ce que ces femmes vivent. Mais pour le chrétien, ce n'est que pour un temps. On peut continuer de chercher Jésus, même dans un cimetière. Et on va être surpris. Parfois, on va le chercher pour, si je compare avec ce qui se passe pour ces femmes ou ce qui s'est passé, on va le chercher pour prolonger un peu la vie, pour l'embaumer. On est peut-être limité dans notre imaginaire, dans notre foi, dans notre croyance. Mais avec cette attitude, on va rencontrer la vie de résurrection, qui va se manifester au moment où on s'y attendra peut-être le moins, où on sera surpris de la créativité de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. La Bible parle que de ça, d'un Abraham qui est vieux, qui ne peut pas avoir d'enfant, d'un Abraham qui a un enfant en trichant, et on peut penser que Dieu ben, du coup, va lui en vouloir et ne pas accomplir la promesse, et pourtant la promesse va s'accomplir. On voit ça dans la vie de Sarai, qui rigole, et pourtant elle va devenir mère. On voit ça avec la nation d'Israël, qui est, enfin, c'est pas Israël à l'époque, c'est le peuple juif, la nation n'existe pas encore, qui va être esclave de la plus puissante nation de l'époque, l'Égypte. Pendant près de 4 siècles, ils vont être prisonniers, et pourtant Dieu va les délivrer. On va voir ça au travers de l'histoire d'Israël, d'un David qui, avec des gens de rien, va devoir fuir dans des grottes et se dire « Mais un jour, un prophète m'a oint pour que je sois roi, mais où est l'avènement de cette promesse ? Je vis la mort. » Parfois, ça va être peut-être un croyant à Babylone qui a été déporté et en se disant « Ben voilà, le temple a été détruit, nos bénédictions ont disparu, on est prisonnier de la plus puissante nation. » C'était devenu Babylone et on ne s'en sortira pas. Mais pourtant, Jérémie avait prophétisé que ça durerait que 70 ans et ça s'est accompli à la lettre. C'est le peuple juif qui est assujetti au pouvoir romain et qui peut se dire encore, on a péché et encore, on est discipliné, on a perdu toute espérance. Et pourtant, c'est dans cette période-là que le Messie est venu. On voit ça dans l'histoire d'Église. Ou combien de fois, avec les guerres de religion, avec les persécutions de certaines nations, et on voit ça encore aujourd'hui, on peut se dire, mais quel espoir peut-on avoir quant à annoncer Jésus dans un pays musulman ou en Corée du Nord ou, est-ce que c'est possible? C'est la mort, alors que beaucoup sont en prison, beaucoup sont persécutés, beaucoup sont tués. Mais nous avons un Dieu de résurrection qui peut-être ne se voit pas pour l'instant. Il est peut-être ailleurs, mais il a vaincu la mort et nous continuons d'aller le chercher. On se trompe parce qu'on le cherche peut-être mal, mais Dieu voit notre besoin, il voit notre foi. Et c'est pour ça que ces femmes seront les premières à savoir et à expérimenter la vie de résurrection avant même les apôtres, avant les disciples. Elles vont être les premiers témoins de la résurrection. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'impossible pour l'homme, mais pourtant possible pour Dieu. Vous savez, en France, alors je ne sais pas si la loi existe, mais je crois que c'est encore, mais sous Napoléon, vous savez, les pays catholiques ont un rapport avec la mort différent des pays protestants, et ça se voit de façon évidente au niveau des cimetières. Par exemple, vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, ben les cimetières, c'est comme des parcs, hein, vous les voyez, il y a du gazon, il y a des tombes, et voilà, ça fait partie du décor d'une ville ou d'un village. En France, il y avait des murs autour des cimetières. Il ne fallait pas voir la mort. Et nous, des fois, on a nos cimetières, mais ils sont murés. On ne s'y rend pas. On se dit, là, il ne peut pas y avoir la vie. Là, il ne peut pas y avoir la résurrection. Là, il ne peut pas y avoir d'espérance. Donc, je me débrouille, mais il y a tous mes regrets dans ce cimetière. Il y a toutes mes déceptions, il y a ma culpabilité, il y a mes tombes. Et Dieu dit, mais la repentance consiste parfois à aller au cimetière et de confesser, dire oui, là, c'est une sorte d'autel aussi. Me dire oui, là, Seigneur, j'ai failli, c'est la mort, mais tu es le prince de la vie. Tu es le Dieu de résurrection. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui lave. Tu es celui qui purifie. Tu es celui qui sanctifie. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui est lent à la colère. Tu es celui qui a la compassion, qui est gracieux, qui fait des promesses. Tu es ce Dieu-là. Tu es aussi le Dieu des cimetières, parce que tu as vaincu la mort. Et donc, parfois, parce qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu, ou on vit dans la culpabilité, ou parce qu'on manque d'enseignement, j'en sais rien, on ne fait pas comme ces femmes, où on espère contre eux, alors qu'on est encerclé par le désespoir. Et du coup, on se tourne et on va espérer dans autre chose. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais trouver Jésus dans les œuvres mortes, par exemple. Combien de chrétiens, parce qu'ils se sentent coupables de leur cimetière, essayent de compenser par des œuvres, essayent de se racheter d'une certaine manière, alors qu'il n'y a que Jésus qui peut racheter nos vies. Et ils cherchent Jésus en faisant ça. Ils cherchent à se débarrasser de leur culpabilité. C'est ce qu'on voit avec Adam et Ève en Genèse 3 avec les feuilles de figuier. Mais on ne trouvera pas la justification avec les feuilles de figuier. On trouvera la justification avec le sang de Christ, avec la peau de l'animal dont Dieu nous a revêtus. Ne cherchons pas non plus à trouver Jésus dans le légalisme religieux, dans une pensée toute formatée, faite de slogans chrétiens, où on pense qu'on est spirituel, mais en fait on est mort à l'intérieur, c'est un cimetière. Les slogans ne sont pas forcément synonymes de vérité. Ils sont peut-être jolis à entendre, mais ils ne sont pas synonymes de vérité. Vous savez, on a tous nos travers, hein, notre vocabulaire, notre formalisme chrétien. Et à l'Institut théologique à Paris, alors qu'on a des étudiants de différentes dénominations, de différentes ethnies, chaque dénomination a ses slogans, ses manières de se comporter, son vocabulaire. Et des fois, il y a des gens, c'est presque une ritournelle, c'est presque un réflexe. Si vous demandez aux gens « ça va ?»« Ça va, grâce à Dieu. » Moi, j'entends « ça va très mal, mais je fais comme si. » Parce que c'est déjà le ton, c'est « ça va, grâce à Dieu. » Mais bien sûr que c'est grâce à Dieu, on le sait. La question, c'est « je veux savoir si tu vas bien. » Mais les gens, du coup, on sent qu'à l'intérieur, il y a des tensions. Mais il faut avoir le bon vocabulaire. Mais ça ne donne pas la vie, le vocabulaire. C'est comme les gens qui disent « ah, il faut avoir la foi ». Oui, il faut avoir la foi, c'est un slogan, mais là-tu. D'accord ? Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, mais la personne est stressée toute la journée. Ce n'est pas la vie, en réalité. Il n'y a pas de communion avec un Dieu qui nous transcende. Certains cherchent la vie, cher Jésus, dans l'inquiétude, dans le fait d'essayer de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout prendre sur soi. D'autres s'appuient sur leur propre sagesse, la sagesse humaine. Ils cherchent la vie dans la sagesse humaine, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en se plaçant du côté du bon, vous savez, du bien. Mais la vie, c'est un autre arbre auquel on n'a pas accès sans passer par la croix. Sinon, si la connaissance du bien et du mal, fruit dont Adam et Ève se sont nourris, si c'est ça qui produisait la vie, Dieu les aurait laissés dans le jardin d'Éden pour profiter de l'arbre de la vie aussi. Or, ça n'a pas été le cas. C'est parce que vous avez mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vous chasse du jardin afin que vous ne mangiez pas de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie devra être goûté par la croix, par la mort, par la verge d'Aaron qui ressuscite, vous savez. Un bout de bois ne peut pas produire des branches ou des fleurs et encore moins des fruits. Mais pourtant, la verge d'Aaron, c'est celle qui a été choisie, celle du souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ces femmes, donc, qui vivent avec cette contradiction, nous croyons que Jésus est mort, nous croyons qu'il faut l'embaumer, mais nous croyons que la pierre peut être roulée, nous croyons que c'est là la limite que nous devons être, parce que peut-être qu'ailleurs, la mort est encore pire. Et on préfère être près d'un Jésus mort qu'ailleurs. Et ce qui fait qu'au verset 2, on voit, il est écrit « de grand matin, comme le soleil venait de se lever ». C'est-à-dire que ça a été leur première préoccupation. Ça a été une priorité. Elles n'ont pas attendu. Et c'est ça la foi aussi. C'est de ne pas attendre. C'est de ne pas, composer avec certains compromis, de ne pas accepter. C'est-à-dire, je vais direct là où je dois aller. J'ai une décision à prendre, je la prends. J'ai une autre façon de penser à accepter, je le fais immédiatement. Et on voit que dans nos vies, parfois, il y a des prises de conscience suite à une discussion, des circonstances de la vie, le Saint-Esprit qui nous parle, un passage biblique qui nous touche. Et on est convaincu, mais des fois, quand on est convaincu, on n'obéit pas toujours. C'est comme Jésus dans l'évangile de Jean, il dit « Le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement », mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se convertira. Et la conversion, ça vient d'une décision, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre la décision à notre place. Donc il y a des gens qui peuvent être convaincus sans forcément obéir. On voit dans les évangiles que des gens étaient convaincus que Jésus était la vérité, mais à cause des autres, de leur entourage, ils ne se sont pas convertis. Alors que Dieu nous dit, faites ça dès le matin, faites ça dès que vous avez cette prise de conscience, dès qu'une situation est devant vous et que vous réalisez qu'il y a quelque chose à faire ou à décider, qui est de choisir la vie de résurrection, n'attendez pas. Et c'est fou parce que, dans un cimetière, encore une fois, il n'y a pas d'espoir, mais en même temps, il y a des choses agréables. À l'époque, c'était le cas, mais aujourd'hui aussi, vous avez des arbres, vous avez de la pelouse, vous avez des fleurs, des plantes. Il y a des choses intéressantes, où ça vit quelque part, il y a de la vie. Et ces femmes, elles veulent aller là où la mort règne entièrement, dans le tombeau. Et parfois, il faut aller jusque-là dans notre vie. À la fois, il ne faut pas faire de compromis, il faut prendre des décisions immédiatement, il faut être entier, et en même temps, il faut accepter le processus de Dieu jusqu'au bout. Parfois, il nous faut rentrer dans le tombeau. Là où, par exemple, quand Jésus a ressuscité Lazare, là où la mort sentait, puisque Jean précise, il était mort depuis 3 jours, et il sentait déjà la mort. Et ces femmes, elles arrivent, et déjà un miracle, en tout cas, peut-être pas un miracle, mais parce que à la limite, 15 hommes ont peut-être pu auparavant rouler la pierre, elles ne savent pas. Mais en tout cas, elles avaient une attente, qui nous roulera la pierre? Et là, Dieu a répondu à leur prière déjà. Elles arrivent, la pierre a été roulée. C'est quand même quelque chose, ça. C'est quand même quelque chose, déjà. Quelque chose d'impossible, normalement. Elles prennent une décision impossible, mais Dieu répond par quelque chose d'impossible aussi. Et c'est là où il y a une communion qui commence à s'opérer entre Dieu et nous. C'est que nous croyons au Dieu de l'impossible et lui répond en faisant l'impossible. Et nous, alors là je parle de la mort littéralement, quand on perd un être cher, là, tout est impossible. On n'aura plus de contact avec lui. Alors, certains cherchent. Il y en a qui essayent de faire revenir les morts en allant voir des devins, des prêtres, etc., de faire parler les morts. Parce que l'homme, il est désemparé devant la mort. C'est fini, c'est terminé. Vous pouvez être fâché avec quelqu'un, vous pouvez en vouloir à quelqu'un, vous pouvez ne pas voir quelqu'un à cause du temps qui passe, vous êtes occupé, on n'a pas le temps de se téléphoner. Mais on sait toujours que la personne est là. Un jour, peut-être, on se parlera. Peut-être qu'un jour, on se réconciliera. Il y a encore la vie, même s'il n'y a rien. Mais quand il y a la mort, c'est fini. C'est fini. C'est un tombeau avec la pierre devant, c'est terminé. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. La pierre a été roulée. Quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles entrèrent dans le sépulcre. Elles n'ont pas hésité, on voit ça au verset 5. C'est-à-dire que elles répondent à l'invitation de Dieu qui a répondu déjà à leurs besoins. Et vous savez, quand Paul dit que Dieu peut répondre à nos prières au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, le au-delà, ce sera toujours la vie de résurrection. C'est de cela dont nous avons besoin. C'est au-delà. Je vous donne un exemple, et je ne dis pas que là on a tort de le faire ou autre, mais imaginons, nous sommes dans un pays occidental, on est dans un pays riche, on a, que je sache, vous n'avez pas de problème pour manger, d'accord? Mais on bénit le repas quand même, et c'est bien de bénir le repas. Mais on doit reconnaître aussi, c'est qu'on est reconnaissant pour le repas, parce que tout vient de Dieu. Mais en même temps, depuis qu'on est né, moi personnellement, j'ai toujours eu quelque chose dans mon assiette. Donc, je suis reconnaissant, et puis en même temps, c'est normal. D'autres personnes dans le monde sont croyantes, réellement, et elles se lèvent le matin en priant. pour avoir à manger. Et quand le repas arrive et que l'assiette se remplit, ils bénissent ce repas. Parce qu'ils goûtent peut-être un peu plus concernant la nourriture à la vie de résurrection. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un pays où c'est comme un cimetière nutritionnel. Et il faut que Dieu amène la vie de résurrection tous les jours dans l'assiette. Mais nous, c'est peut-être dans d'autres domaines. Domaines émotionnels, domaines relationnels, liés à notre appel, j'en sais rien. Où il n'y a rien, on ne voit rien. Mais on va rentrer dans le tombeau. Pourquoi ? Parce que on a besoin de la vie de résurrection. D'un côté, on ne peut pas trouver Dieu parmi les morts, mais on peut trouver Dieu dans une tombe. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de mort, parce que Jésus n'y est pas. En revanche, c'est notre tombe. C'est nous qui devons accepter notre mort en Christ. C'est nous qui devons nous identifier à ce que Christ a fait pour nous. Lui s'est identifié à nous, il est mort à notre place. Et comme dit Paul en 2 Corinthiens 5, 14 à 17, j'estime que c'est l'amour de Dieu qui nous presse, c'est l'amour de Dieu qui vient de la croix, car j'estime que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Moi compris. Donc moi, je dois accepter que ma personne, ma volonté, mon orgueil, ma façon de voir les choses, ma religiosité, ma connaissance du christianisme, ma connaissance de la Bible, de temps en temps, ça doit aller dans la tombe. Je dois mourir à ça, si ça me prive de la vie de Jésus. Je dois goûter à la vie de résurrection. Et Dieu va parfois amener des situations dans notre vie pour nous diriger dans notre propre tombe. On cherche Jésus dans la tombe, mais c'est nous que nous devons rencontrer dans la tombe, afin de nous identifier dans ce qu'il a fait et du coup de recevoir la vie de résurrection. Et donc on doit mourir à nos déceptions, on doit mourir à notre tristesse, on doit mourir à des mauvais choix passés. On doit mourir parfois à des bons choix qui exaltent la chair. On doit mourir à ce qui est bien comme à ce qui est mal, si ça nous prive de l'arbre de vie. Sinon, ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas Christ en nous, espoir de gloire. Et Jésus a dû s'abaisser jusqu'à la mort de la croix pour pouvoir nous sauver. Mais nous, on doit s'abaisser jusqu'à sa mort à la croix pour vivre la vie de résurrection. Et c'est là que nous allons le rencontrer. En Romains 6, 4, Paul le dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui, donc avec Jésus, par le baptême en sa mort. » Je rappelle que baptême, baptizo, ça veut dire ensevelir, d'accord, ou immerger. Et donc il dit, « On a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et donc, je dois m'identifier dans sa tombe, parce que sa tombe, c'est la mienne. Et quand j'accepte que sa tombe soit la mienne, je réalise que la tombe est vide et que je vis la vie de résurrection avec lui. Alors, tout ça sont des mots, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre ça en réalité. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, on oublie le ministère du Saint-Esprit, mais pensez à une chose. Dans l'Ancien Testament, il était dit, vous savez, qu'on ne doit pas croire quelqu'un sans la base de deux ou trois témoins. Or, on sait que Dieu est un en trois personnes. À la croix, qui est mort à la croix ? C'est Dieu en la personne de Jésus-Christ. Qui était témoin ? Le Père et le Saint-Esprit de cette réalité. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre pour nous convaincre et nous faire vivre cette vie de résurrection. Et donc le Saint-Esprit en nous nous fait vivre ce que lui a vu à la croix. Et c'est comme ça qu'on va vivre la vie de résurrection. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire. Sinon c'est du légalisme, de l'hypocrisie, de l'imitation. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est là où on a besoin de la puissance du Saint-Esprit réellement. Les gens pensent que le Saint-Esprit c'est uniquement la puissance des miracles, etc. C'est vrai. Mais d'abord, c'est la puissance que Dieu envoie par la personne du Saint-Esprit qui consiste à nous faire vivre une vie de résurrection qui n'est pas naturelle. Et en plus, nous, nous n'y étions pas. Mais le Saint-Esprit atteste, témoigne dans notre cœur que ça s'est réalisé. Tout comme dans notre cœur, il nous convainc que l'enfer existe, il nous convainc que Dieu existe, il nous convainc que la Bible est vraie. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans notre vie, parce que sinon nous serions toujours en proie au doute. Et donc, au Colossiens 3, versets 1 à 3, il est dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et là, c'est intéressant, ces femmes cherchaient Jésus. Elles le cherchaient où? Dans la tombe, dans un cimetière. Mais quand on a appris la bonne nouvelle de la résurrection, on cherche, Paul nous dit, chercher les choses qui sont en haut. C'est plus dans les cimetières ensuite que l'on cherche, c'est en haut. Là où, selon Éphésiens chapitre 1, on est béni de toute bénédiction spirituelle qui sont dans les lieux célestes en Christ Jésus. Là où il y a la plénitude de l'Église, on est assis à la droite de Dieu avec lui, en lui nous avons tout reçu. Et donc, maintenant qu'on a cherché Jésus dans notre propre mort, on a trouvé la vie de résurrection et maintenant on cherche Jésus dans les choses d'en haut. Mais il faut passer parfois par la mort pour pouvoir trouver les choses d'en haut. Il faut parfois être désespéré pour espérer. Il faut parfois ne plus avoir confiance en soi pour avoir confiance en Dieu. Et Dieu permet ce processus. Et donc, verset 2, toujours dans Colossiens, chapitre 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, je cherche Christ, je vais dans le tombeau est vide, Jésus ressuscité et ma vie est en lui et je vis la vie de résurrection en lui. Alors que je suis encore dans un corps de mort. Et c'est pour ça qu'on se réjouit. On ne se réjouit pas parce que la salle est pleine, on ne se réjouit pas uniquement parce que la musique est jolie ou que le prédicateur parle bien ou qu'il y a du chauffage. On se réjouit parce que la vie d'en haut nous remplit. Autour de moi, c'est peut-être un cimetière. Autour de moi, c'est peut-être un désert. Autour de moi, je ne vois pas d'eau. Mais par le rocher qui a été frappé, Christ à la croix, il y a une fontaine d'eau vive qui sort. Et c'est ce que Jésus nous a promis. Des fontaines d'eau vive sortiront de notre sein, c'est-à-dire de ce corps de mort. Parce qu'il y a la vie de résurrection. Et c'est intéressant parce que souvent les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Encore une fois, le faire, le être, le... voilà, on essaie de gérer. Mais vous savez, quand on rencontre la vie éternelle, après, ce qui va se passer, c'est pas grave. C'est un peu comme l'illustration est légère, enfin comparée à la vérité de la vie céleste, mais c'est pour vous donner une idée. C'est un peu comme les gens qui sont vraiment amoureux, vous savez. Oh là là, on est amoureux, on va vivre notre vie ensemble, ou on verra. Quand vous allez travailler, gagner de l'argent, on verra. On s'aime. On s'aimera dans la pauvreté, on s'aimera dans les richesses, on s'aimera dans n'importe quel pays. On s'aime. Mon pays, c'est l'amour. On déchante un peu. Parfois, ça devient un cimetière là aussi. Mais avec Dieu, ça, c'est vrai. Peu importe les situations. Je ne dis pas qu'elles seront faciles, mais on sera avec Jésus. On sera avec Jésus. Et donc, elles reçurent une vision. Au verset 5, qu'est-ce qu'on voit là? Elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Là, c'est intéressant parce que c'est une vision céleste qu'elles reçoivent, en fait. Et rappelez-vous, le Saint-Esprit n'a pas encore été envoyé, la Pentecôte n'a pas eu lieu. Et donc, pour moi, cet ange, c'est le type du Saint-Esprit qui annonce sa vérité. Et donc, elles reçoivent une vision d'en haut. Et c'est ça dont nous avons besoin. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et là, il y a un ange, un envoyé de Dieu, un envoyé du ressuscité qui dit, je vous connais, je sais que vous cherchez Jésus. Je le sais, je connais ce qu'il y a dans votre cœur. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Mais moi, je vais vous dire quelque chose dont vous doutez peut-être. Il n'est pas là. C'est pas ici. Il est en Galilée déjà. Il vous attend comme il vous l'avait promis, comme sa parole l'avait annoncé. Et donc, elles reçoivent une parole de réconfort. Qu'est-ce qu'il dit l'ange au verset 6 ? Ne vous épouvantez pas. Parce que c'est vrai que c'est une vie inconnue, la vie de résurrection. Même quand on vit une vie de mort, même si on est, pour utiliser un terme, même si on est un zombie, on maîtrise, on connaît la mort, on connaît le péché, on connaît le monde, on assure. Mais la vie de résurrection, ça fait peur. Même si ça a l'air d'être bien, ça fait peur. Vive la vie chrétienne. Et là, l'ange dit, ne vous épouvantez pas. Et c'est le type du consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Celui qui va nous dire, ne t'inquiète pas. Je me rappelle quand je me suis converti, je jouais de la musique dans un groupe à l'époque, et on partageait un appartement avec le guitariste du groupe. Et lui, quand il a vu ma conversion, il a bien vu que je changeais, etc. Donc pendant le premier mois, je l'ai évangélisé, je peux vous dire, on discutait, puis ça l'intéressait, il posait des questions et tout. À un moment donné, au bout d'un mois, il a dit, ne me parle plus, c'est terminé, ça me fait trop peur. Parce qu'il avait peur de croire lui aussi et de devoir changer à ce point, parce que lui, il ne voyait pas que j'étais poussé par la vie. Donc il pensait que je changeais, parce que j'arrêtais la musique, enfin je prenais des décisions draconiennes, hein, je quittais le groupe, enfin voilà, c'était une autre vie maintenant, terminée. Et lui, de voir ça, il dit, mais moi j'ai pas envie de tout quitter, moi. Pourquoi ? Parce que lui, il n'était pas animé par cette vie, donc il voyait que du légalisme, du formalisme, la vie chrétienne, oh, le pauvre, il ne peut plus faire de musique, il ne voyait pas qu'il y avait une vie à l'intérieur. Donc il a dit, stop, je ne veux plus entendre. C'est terminé. Il était épouvanté, en fait, par cette vie. Mais quand on a reçu le consolateur dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est mon assurance. Et donc, vous savez, dans nos tombes, dans nos cimetières, dans notre co-crucifixion avec Christ, il y a quelqu'un de vivant, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, là, c'est pas exactement ça, théologiquement c'est pas vrai, mais même historiquement, mais c'est une image. C'est comme si ces femmes, en elles avaient déjà reçu les arts de l'esprit, vous savez, elles pouvaient pas faire autrement que de s'approcher de la vérité sans vraiment la connaître. Elles s'approchent de la tombe sans savoir que la tombe est vide. Elles espèrent que la pierre roule alors qu'elle est déjà roulée. Vous voyez, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a déjà fait un travail dans leur vie. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. On est des fois fatigué, chargé, et en même temps on a du repos. On est désespéré, hein, c'est ce que Paul dit dans la lettre aux Corinthiens, vous savez, je ne sais plus les termes maintenant, mais on est abandonné, mais jamais seul, désespéré, mais pas anéanti. C'est-à-dire que c'est comme si on est toujours à la limite, vous savez, avec le nez qui ressort de l'eau, là. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là toujours, le Consolateur. Comme elles vont au cimetière quand même. Elles espèrent contre toute espérance. Et on voit que cet ange compatit, s'identifie lui aussi à ce qu'elles vivent. Il dit, mais vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Je sais qui vous cherchez. Voilà, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul en fait. Vous êtes observé, vous êtes regardé. En fait, l'ange connaissait l'aspiration de leur âme. Vous savez, des fois, Dieu nous connaît mieux qu'on se connaît, bien sûr. Il voit nos aspirations envers lui, que nous, des fois, nous ne ressentons plus. On se croit loin de tout, mais en réalité, on a la foi quand même. Et il vient au secours de notre incrédulité. Et donc, d'une certaine manière, il approuvait leur recherche. Elles se trompaient dans la manière de le rechercher. Elles auraient dû, si elles avaient vraiment cru totalement, dire « bon, ok, il a été enterré, mais bon, il va sortir un de ces quatre. Nous, dès le matin, on va aller en Galilée direct. » D'accord ? Non, il a fallu qu'elles passent par un détour. Donc, il y avait une part d'incrédulité dans leur foi. Mais l'ange a été au-delà, Dieu a été au-delà. Il dit, je vais vous parler, moi. Je vais vous remontrer le chemin. Je vous comprends, vous cherchez Jésus mal, mais vous le cherchez, c'est ça que je regarde. Un peu comme le fils prodigue, quand il revient, il revient mal. dans le sens il pense que son père va être un maître maintenant, mais ce sera au moins un bon maître par rapport aux autres. Donc il a quand même une foi en son père, mais pas une foi pleine et entière, parce qu'il va découvrir que son père est resté son père et qu'il va retrouver son statut de fils. Donc le père va répondre au-delà de sa propre espérance. Le fils va espérer retrouver un bon maître chez son père, mais en fait son père va lui donner tout l'amour d'un père. Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu répond au-delà de ce que nous pensons et prions et imaginons. Comme elle cherche à l'embaumer, elles n'ont plus besoin, il est ressuscité. Il ne goûtera pas à la corruption. C'est extraordinaire. C'est ça la vie chrétienne. C'est l'assurance d'une victoire. Il est ressuscité. C'est là notre victoire. Et c'est ce qu'il est dit, donc Éphésiens 3:20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous imaginez, je pense ou imagine quelque chose, et non seulement Dieu va répondre au-delà, non, il répond infiniment au-delà. Infiniment, c'est la vie éternelle en fait. C'est la vie éternelle. Donc, il va répondre au-delà de nos problèmes de couple, au-delà de notre solitude, au-delà de nos finances, au-delà de nos relations, au-delà de nos défis, au-delà de cette vie. Il va répondre dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et c'est pour ça que Paul dit en Philippiens 3, verset 8, « Moi, je considère que tout le reste est comme une perte. Même les bonnes choses, c'est comme une perte. Pourquoi ? À cause de l'excellence de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la vie de résurrection. Le problème, c'est qu'on ne la cherche pas, cette vie. On essaye de maîtriser avant la tombe. Et donc, on ne goûte pas à la résurrection. On contrôle. Ou on essaye de contrôler la vie de résurrection. Et non seulement, ce n'est pas simplement des mots, mais on va vivre des preuves de la résurrection, des choses qu'il n'y a que nous qui puissions le savoir. On sait que ça va être différent, la vie avec Dieu. Tout comme ces femmes, elles reçoivent une promesse. L'ange dit, mais voici le lieu où on l'avait mis. Regardez, il n'y est plus. Il n'y est plus. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'il a été bandé, Jésus. Et aussi, il avait été recouvert d'un linge. Et quand vous comparez les autres passages des évangiles, on voit que le linge, il a été plié. Donc c'est peut-être lui qui l'a plié quand il est ressuscité. Mais le linge, lui, il n'a pas été touché, les bandelettes. Vous savez, vous vous rappelez, quand Lazare sort du tombeau, il est prisonnier par des bandelettes. Mais Jésus, lui, il n'a pas été prisonnier. Pourquoi ? Elles n'ont pas été arrachées. C'est ce que je comprends, moi. C'est comme si son corps a disparu à l'intérieur des bandelettes pour réapparaître ressuscité au-delà des bandelettes. Et donc, les bandelettes sont restées comme... elles se sont affaissées parce qu'il n'y avait plus de matière à l'intérieur. Et vous savez quoi ? Quand je regarde les bandelettes... Qu'est-ce que je ne vois plus ? Moi. Mon péché est effacé. Ma culpabilité est effacée. Mon ancienne vie a été effacée. Mon passé a été effacé. Ce qui me liait, ce qui m'emprisonnait, ce qui me rendait esclave, est toujours là, mais moi j'y suis plus. Parce que je suis là-haut avec Christ. C'est ça la vraie délivrance. Ce n'est pas d'essayer d'arracher les bandelettes. J'ai fait des erreurs, la bandelette est là. Je me suis trompé parfois, la bandelette est là. Il ne faut pas essayer de nier les bandelettes. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis plus prisonnier de ces bandelettes. Je n'y suis plus. J'ai été délivré, non pas parce que les bandelettes n'existent plus, mais parce que moi je suis mort en Christ. Et non seulement je suis mort, mais... Un mort, normalement, il y a la putréfaction qui opère et au bout d'un moment, il reste les os. Donc, il y a les bandelettes avec les os à l'intérieur. Là, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Vie de résurrection, je suis là-haut. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ailleurs. Et c'est pour ça qu'il nous faut lire la Bible. Ou vivre la communion fraternelle, ou annoncer le royaume de Dieu. Vivre la vie que Dieu nous demande, en fait. Prendre des bonnes décisions, marcher par la foi. C'est parce que c'est une manière pour nous de disparaître dans notre chair pour vivre en nouveauté de vie. Waouh, enfin, une autre vie, autre chose. Et au verset 7, qu'est-ce que l'ange dit ? Et je terminerai là-dessus. allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. On devient des évangélistes, on devient des porteurs d'espoir, on devient des témoins de la résurrection de Christ. Parce que quand on vit cette vie-là, on ne peut pas faire autrement que de faire sortir l'eau de notre propre vie. Et on commence à dire. Le problème, c'est que si on essaye, on dit aux gens, allez dire, va annoncer l'évangile, il faut évangéliser, alors que, en fait, on est entouré par des bandelettes parce qu'on est encore prisonnier, ça ne marchera pas. Il nous faut un processus où la vie de résurrection nous permet de vivre en nouveauté de vie. Et là, on devient des témoins de Jésus-Christ ressuscité. Parce que même Paul dit, même si vous avez connu Jésus selon la chair, ne le connaissez plus ainsi. Et là, la chair ne parle pas du péché, ça parle de la chair matérielle. Il dit, ne le connaissez plus ainsi. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est ressuscité. Donc même les apôtres ne devaient plus annoncer un Messie en disant « Ah ben je l'ai connu, il a dit ça, c'était bien ». Bien sûr qu'ils vont témoigner de ce qu'il a dit. Mais ce qui les a motivés, c'est qu'il était ressuscité. C'est pas qu'il a enseigné des bonnes choses et on va perpétuer la tradition un peu comme des gens vont faire une fondation aujourd'hui pour perpétuer l'œuvre de quelqu'un. La question n'était pas de perpétuer l'œuvre d'un homme mort. C'était d'annoncer ce qu'il avait annoncé d'avance, c'est de propager la bonne nouvelle parce qu'il est ressuscité. Et ils sont devenus des témoins à Jérusalem, en Samarie et jusque dans les extrémités de la terre. Ce témoignage a renversé un empire, pas en termes politiques, parce que l'Empire romain a continué plus longtemps, mais en termes religieux. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Et nous allons continuer dans la vie chrétienne. C'est la seule manière de continuer la vie chrétienne. C'est d'avoir l'assurance qu'il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs et merci de nous aider à vivre la vie de résurrection. Amen.